J'aimerais que vous preniez avec moi, frères et sœurs, le chapitre 17 de l'évangile de Jean. Et on sait que ce chapitre, il se trouve dans cette série de chapitres du repas du Seder, la nuit de Pâques. Et c'est le dernier chapitre avant que Jésus soit arrêté, trahi par Judas. Et Jésus, après avoir beaucoup parlé à ses apôtres, il lève les yeux au ciel et il dit: « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, l'Emmanuel, celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. » Vous voyez, il savait qu'il allait aller à la croix. C'était fait en lui. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. Vous voyez, Jésus, il était dans toute la gloire auprès du Père, avant même que le monde ait été créé. Et le Père, comme je l'ai déjà dit et je le dirai encore, a tout créé pour nous, pour être avec nous. Et Jésus avait déjà toute cette gloire, et Dieu ayant créé, l'homme a chuté. Et il a envoyé son Fils, parce qu'il nous a aimés le premier, pour faire l'expiation de nos péchés, pour qu'en lui, on puisse retrouver la vie. Et Jésus, alors qu'il sait que toutes choses sont à même d'être accomplies, il va lui dire: « Glorifie-moi auprès de toi de la gloire que j'avais avant la fondation du monde. » Et vous allez voir maintenant, dans la suite de ces versets, et je n'avais pas prévu de vous les dire, mais en priant, je sentais battre le cœur du Seigneur, qui, comme Jésus, veut qu'aucun se perde. Et Jésus, tout son cœur, c'est ce par quoi on a commencé la première partie de cette première partie dont je fais la deuxième partie. Et on fera demain un deuxième volet, pourrait-on dire. Parle à Jérusalem céleste, que c'est tout ce qu'il y a dans le cœur de Dieu, qu'il est notre Père et qu'on soit avec lui. Et Jésus, de la même manière qu'il prie son Père, « Glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. » On va voir que dans tout ce qu'il y a dans le cœur de Jésus, c'est de prier pour ceux qui sont là, de prier pour nous qui sommes ici aujourd'hui, tous ceux qui vont arriver par la suite, pour qu'eux aussi soient glorifiés de sa même gloire auprès du Père, comme avant que le monde ait été créé, qu'on soit un avec lui. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à toi, tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Voyez Jésus, il allait auprès du Père, et c'est notre destinée. Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Garde-les dans cet Emmanuel, garde-les dans ce Dieu avec nous, garde-les dans cette communion, et ne permets pas qu'ils se perdent. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le Fils de la perdition, afin que l'Écriture soit accomplie. Et maintenant je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je dis garde-les, je dis demeurez dans cette plénitude de la vie. Ne faites pas la folie d'y retomber, vous êtes créés et recréés et faits pour ma gloire. Vous êtes des enfants, des fils et des filles du royaume. Demeurez dans ces choses. Et vivez cette joie parfaite. Je leur ai donné ta parole. Et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Sanctifie-les. Vous voyez cette prière de sanctification de Jésus comme elle vient du cœur même de Dieu. Comme ce n'est pas précepte sur précepte, mort, dur à soi-même. Ça vient de l'amour. Sanctifie-les dans ta vérité. De grâce, Seigneur, dans ta parole, qui peut être une épée, un marteau, comme on l'a vu, mais sanctifie-les dans cette vérité, pour qu'ils soient pour toujours avec nous, comme on va le lire, pour qu'ils fassent qu'un avec nous, pour qu'ils soient glorifiés de la même gloire dont tu vas me glorifier. De grâce, Père, c'est comme le cœur de Dieu qui bat, qui veut planter aujourd'hui même encore dans nos cœurs. La sanctification, c'est une passion. Elle jaillit de l'amour et de rien d'autre. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Et c'est ce que nous sommes, vous voyez, on est en train de lire la parole de cet apôtre Jean qui a entendu ces choses ce soir-là, 2000 ans après. Voyez, si Dieu n'est pas avec nous, pour qu'on puisse simplement lire ce texte. Et pourquoi il prie ? Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi. Afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Quand on est un en Dieu, comment si on reste sur le palier, si on reste sur le pas de la porte et qu'on ne rentre pas dans la maison du Père ? Si quand le Père veut nous étreindre, on reste encore dans nos péchés, dans nos pensées, comment le monde va croire ? Comment le monde va croire ? Voyez, bien-aimé, il y a une double blessure. Retenez ça, une double blessure. Une blessure dans nos cœurs. Parce que tant qu'on n'est pas passé dans cette dimension d'une réelle vie nouvelle, on reste des êtres blessés, premièrement. Mais deuxièmement, on blesse le cœur de Dieu. Le Dieu qui a tout fait pour qu'on soit ses fils et ses filles du royaume, remplis de joie, de vie, de lumière, de sa gloire, comme on va le lire. « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. » Eh bien, le cœur du Père est blessé. Comme je l'ai expliqué ce matin. Alors il y a une double blessure. Je prie qu'il y ait une double guérison. La guérison de nos cœurs, qu'ils soient sanctifiés par la vérité, affranchis et libres, et qu'ils s'envolent vers le Père. Et ainsi, automatiquement, il y aura la guérison dans le cœur de Dieu. La guérison dans le cœur de celui qui est notre Père. Que tous soient un pour que le monde croie. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. C'est donc possible, frères et sœurs, d'être en cette pleine communion par Jésus, en Jésus, avec le Père. De faire un, il nous a donné sa gloire. Voilà pourquoi on doit se souvenir de ce Dieu. On doit par la foi, libérer la puissance de la croix, la folie de la croix, qui est une puissance de Dieu pour ceux qui croient. Qu'on soit gardé par la foi en la puissance de Dieu pour vivre cette communion. C'est ainsi que le monde croira, qu'il ne pourra que croire, j'ai envie de dire, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé. Et écoutez bien, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. On a besoin de vivre ce à quoi Dieu nous appelle en plénitude pour rendre témoignage que le Père aime ce monde, qu'il veut sauver. Ça doit se voir par nos vies que ce salut et cette sanctification, ce n'est pas un fardeau pesant, lourd et terrible, mais une bonne nouvelle. Alors certes, Jean-Baptiste, la bonne nouvelle, il l'annonçait en criant, produisez donc du fruit digne de la repentance. Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Mais c'était pour produire un fruit de joie parfaite, de communion parfaite, qui prouve l'amour de Dieu, sans même qu'on ait besoin de parler. Et le monde en a besoin. Ainsi, il verra que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Comme tu m'as aimé. On manifestera cet Emmanuel, cet amour de Dieu, avec des visages qui sont remplis de sa joie, avec des cœurs qui sont tout donnés pour l'autre. On ne peut pas avoir un cœur tout donné quand on n'est pas tout donné au Père. On ne peut que être tout donné à l'autre quand on est dans cette dimension de foi. Quand on ne s'écoute plus, alors là on est tout pour l'autre et on ne sait pas comment ça se fait, mais on est rempli d'amour jour après jour et on ne fait aucun cas de notre vie et on est tout pour l'autre, tout pour le Seigneur. Et ça, ça se sent, ça se voit et ça manifeste l'amour de Dieu et ça donne envie de crocher après le Seigneur. C'était le plus grand témoignage de son amour. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi. Écoutez ce cœur de Jésus. Je veux, vous voyez, que là où je suis, il sait qu'il va aller dans la gloire. Ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu, et ceux qui ont connu que tu m'as envoyé, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom et je le leur ferai connaître. Le nom, l'Emmanuel, que tu es avec nous. Et je le leur ferai connaître, comme j'espère qu'il le fait aujourd'hui. Pourquoi? Afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Voilà pour une introduction des paroles que le Seigneur me mettez à cœur de vous partager. Alors on a fini tout à l'heure, chers bien-aimés, avec le psaume 146 qui nous prouvait, pourrait-on dire, ô combien Dieu est avec nous. Et j'avais insisté sur le fait qu'on est fait pour cette vie nouvelle. On est fait pour cette vie intense, cette vie vraie, cette vie pleine. On n'a pas un Dieu de demi-mesure. On a un Dieu qui a tout donné. Et ce Dieu, il veut tout nous donner. Et pour ça, on doit tout donner, mais par un flux de feu dans nos cœurs. On est fait pour le royaume, pour la joie. On est des enfants du royaume. Mais si on a cette mauvaise conception de Dieu dont j'ai parlé, et dont j'aimerais dire encore quelques mots, si l'on n'a pas ces attitudes de cœur qui nous poussent à l'aimer de manière libre et passionnée, on marche encore comme des orphelins. On marche comme des orphelins qui n'ont pas compris que Dieu est leur Père et qu'il est avec eux. Sanctification et la vie avec Dieu, la vie pour Dieu, ça devient quelque chose à faire, ça devient un devoir. Et un devoir sec, un devoir aride. C'est ce que le prophète Jérémie, s'il y en a qui veulent prendre avec moi, c'est le chapitre 17 et les versets 5 à 8, c'est ce que le prophète dit. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Parfois, quand on veut bien faire pour Dieu, mais faire par nous-mêmes, on détourne notre cœur de l'Emmanuel, on détourne notre cœur du Père. Et consciemment et souvent même inconsciemment, on prend pour appui notre chair, nos réflexions, notre manière de voir, et on ne voit plus la gloire de Dieu qui brille sur la face de Jésus. Alors qu'est-ce qu'il se passe? On est comme un misérable dans le désert, et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite, on voit point, et on ne le verra jamais. On le veut, mais on ne le verra jamais. Tant qu'on se confie en nous, et qu'on ne saute pas dans la vie de Dieu, dans une obéissance radicale, dans une vie de prière quotidienne, sincère, Qu'on ne pénètre pas notre esprit de la parole du Seigneur. Qu'on ne se donne pas les moyens concrets et quotidiens de marcher avec lui, d'être brûlant pour lui. On ne verra jamais le bonheur arriver. Que quand on le vit, qu'on sait ce que c'est, cette joie parfaite de Dieu. Et on y viendra même dans la souffrance, en toutes circonstances. Elle ne peut plus sortir de ton cœur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. La solitude, la solitude. Celui qui n'est pas sorti de lui-même, il se sent seul. Il habite les lieux du désert, sans habitants, la solitude. Mais celui qui sort de lui-même, alors écoutez ce que dit le prophète. « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Rien ni personne d'autre. Il est comme un arbre planté près des eaux qui étend ses racines vers les courants. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient. Il ne l'aperçoit même pas parce qu'il est au-dessus. Méditez sur la vie de Jésus. Et son feuillage reste vert. Il reste vert, il ne se flétrit point. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Dans la sécheresse, dans la difficulté, il n'a pas de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Il ne peut que porter du fruit. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'il est fait. Vous voyez, lorsqu'on marche dans le devoir-faire en étant encore en nous-mêmes et pas en l'Éternel, on marche aussi dans la peur, on marche aussi dans la crainte. On a une fausse conception d'un faux Dieu dur, sévère, sans cœur, sans amour. Et on est donc dans une sorte de peur, de fausse crainte de Dieu, et non pas dans la liberté glorieuse de ses enfants. Dans la passion. C'est ce que dit l'apôtre Jean, 1 Jean 4, versets 18 et 19. La crainte n'est pas dans l'amour. La crainte, elle n'est pas dans l'amour. L'amour parfait, comme la joie parfaite dont on a parlé, bannit la crainte. La crainte, elle n'est pas dans l'amour. Mais quand tu es dans l'amour, quand tu reçois cette vision réelle de l'Emmanuel dans ton cœur, alors cet amour parfait, il bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Pour nous, nous l'aimons, et toute crainte est bannie, et on rentre dans cette plénitude de l'amour et de liberté parce qu'il nous a aimés le premier. Il est Dieu avec nous premièrement. Et c'est ce qui fait, c'est cette vision-là, cette révélation-là, au fond de notre cœur, qui peut nous faire que bondir et tout donner et tout vivre. Alors, j'aimerais maintenant aborder un point important. Comment l'aime-t-on ? Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. On l'aime premièrement, comme j'en ai amplement parlé, parce qu'il est le Dieu avec nous. Mais alors, pourrait-on dire comment demeurer dans son amour ? Comment est-ce qu'on l'aime pratiquement parlant ? Alors ça pourrait paraître bizarre, mais dans l'Écriture, une preuve que l'on aime Dieu, c'est que l'on garde ses commandements. Et on va voir quelques passages ensemble. Et ça, je crois, frères et sœurs, que ça vient du fait que Dieu sait que l'homme est oublieux. Que l'homme peut être passionné un jour, bouillant un jour, et tiède, voire même froid, le lendemain. Vous voyez, même si la passion et la communion avec lui, ça veut dire beaucoup, on pourrait mesurer bien des choses de la passion qu'il y a dans notre cœur, la communion qu'on vit avec Dieu. Mais ce n'est pas la mesure de Dieu, ce n'est pas celle qu'il nous donne. Pourquoi ? Parce qu'il sait de quoi nous sommes faits, et la mesure de Dieu, L'amour qu'on a pour lui, on le voit dans notre engagement, dans notre fidélité au commandement, dans le fait de résoudre en nous-mêmes de marcher, de demander en étant de ceux qui vont réellement recevoir. Vous pouvez noter ce passage fabuleux de Jacques 1, versets 5 à 8, que celui qui demande doit le demander avec foi et sans douter, pour ne pas être semblable au flot de la mer, parce que celui qui doute, celui qui ne s'engage pas de manière résolue, qu'il ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur, c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. J'aimerais vous parler, non pas de l'inconstance, mais de la constance de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est qu'on demeure en lui. C'est qu'on tienne envers et contre tout dans cette foi. C'est qu'on obéisse de cœur, que ça aille bien ou que ça aille mal. C'est à cela que les commandements de Dieu, c'est pour cela que les commandements de Dieu sont donnés. Quand tout va bien, on n'en a pas besoin. On vit dans cette plénitude et ces commandements, ils s'accomplissent de manière merveilleuse et c'est là qu'on voit qu'ils sont vie. Ils s'accomplissent dans notre être, dans notre vie. Mais quand ça va mal, ils sont là comme des panneaux qui nous empêchent d'aller à gauche et à droite. On en a là la parole, le marteau de l'amour de Dieu qui nous ramène et qui nous dit « Garde mes commandements, prouve-moi que tu m'aimes et marche, demeure dans cette foi, comprends l'obéissance, tiens et ne lâche pas le morceau. » C'est tout ce qu'il y a dans mon cœur. C'est de vous dire, de dire à l'Église que ceux qui marchent avec Dieu tiennent jusqu'au bout. Que quand on y est, il ne faut plus lâcher. Il ne faut plus lâcher. Comme Jacob, on va tenir la jambe jusqu'à ce qu'il vienne. On doit résoudre ça dans nos cœurs, de ne plus lâcher. On peut prêcher. Si tu es infidèle, Dieu reste fidèle. Mais ce n'est pas ce qu'il y a dans le cœur de Dieu. On pourra toujours revenir, si ce n'est pas trop tard, bien sûr. Mais ce qu'il y a dans le cœur de Dieu, c'est reste fidèle. Tiens ma jambe. Ainsi tu vas croître, ainsi tu vas rentrer dans ta vocation. Ainsi, comme j'en parlais tout à l'heure, tu verras que tu es un instrument de Dieu. Tu sois un adulte ou un enfant, on a tous une capacité d'amener au corps de Christ, de porter du fruit. Ce que tu as, garde-le, dit le Seigneur. Garde-le. Et comment je vais voir que tu m'aimes? Par le fait que tu gardes fidèlement mes commandements. Alors la sève de Dieu, elle ne cesse pas et elle ne cessera jamais de couler en celui qui tiendra ferme. Peu importe la chaleur, et plus tu tiendras ferme, moins tu sentiras la chaleur venir, comme on l'a lu tout à l'heure dans le prophète Jérémie. Tout ce que Dieu nous demande, frères et sœurs, c'est la persévérance, c'est la constance, c'est de demeurer dans la foi. Et c'est comme un cri qui sort du cœur de Dieu, que celui qui est ressuscité ne retombe pas dans la mort. C'est ce que dit Pierre. Dans sa deuxième lettre, il serait comme le chien qui retourne dans son vomi. Ne soyons pas ce chien qui retourne dans son vomi, ou cette truie qui, à peine lavée, retourne dans son bourbier. Vous êtes faits pour ma gloire, dit le Seigneur. Jésus prie qu'il n'y en ait pas un qui se perde. Et c'est littéralement des larmes que j'avais dans la prière. Sentant le cœur de Dieu, ce que vous vivez, gardez-le, qu'aucun ne se perde. Que cette joie, que cette vie nouvelle, que ce feu, que cette église ravivée que vous êtes, devienne plus que des flammes, un brasier ardent, que rien ni personne ne pourra étouffer. va prendre deux textes ensemble rapidement. Jean, chapitre 14. Jean, chapitre 14, versets 20 à 24. « En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. » C'est lui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Et qui sait, c'est celui qui garde ses commandements. Et il est aimé du Père. Et Jésus va se faire connaître à lui. Si tu gardes les commandements, si tu marches de manière résolue dans ton cœur, jour après jour, la sève de son nom, l'amour de son nom, va venir de plus en plus dans ta vie. Et tu vas le connaître et tu vas savoir ô combien tu es aimé de Dieu et il n'y a personne qui pourra te dire le contraire. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit « Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde ?» Vous voyez, c'est cet amour, cette élection. Jésus lui répondit « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Vous voyez, si tu l'aimes, eh bien tu réfléchis pas, tu obéis. Comme le peuple a dit lors de la révélation de Dieu, lors du don de sa Torah au mont Sinaï, nous ferons, nous obéirons. Et c'est pour ça qu'on doit garder ses commandements, pour pas comme eux, ne pas faire ce que l'on dit. Mais ça commence par dire « je fais ». Je ne réfléchis pas, je n'analyse pas ta parole, tes commandements. J'obéis parce que tu es Dieu et parce que je suis qu'une créature devant mon Créateur. Et alors, celui qui se lève, celui qui marche, celui qui ne dit pas qu'il a de la peine à prier ou qu'il ne se sent pas de prier, mais celui qui se lève, celui qui ouvre sa bouche, le Seigneur va la remplir. Il viendra à lui. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Maintenant, Jean 15, verset 3. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Il y a une parole prophétique qui avait été reçue il y a quelque temps. Saint terrain, et je serai avec toi. Et parfois, on attend que Dieu soit avec nous pour ceindre nos reins. Non, obéis, saint terrain, marche. C'est ça la foi. Et tu verras que ceux qui persévèrent dans la foi, ils héritent les promesses. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Impossible, comme on l'a dit tout à l'heure. Impossible. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. On passe au verset 9. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Gardez mes commandements, c'est pour que ma joie soit en vous. Et que cette plénitude de la vie de l'Esprit, vous ne la perdiez pas, mais que vous puissiez plutôt croître et porter tout le fruit que Dieu vous appelle à porter. Alors, comment Jésus peut demeurer en nous? Par une fidélité quotidienne, frères et sœurs. Il faut être franc et vrai que ce n'est pas facile. Et dans le cœur de Dieu, il y a un souci, c'est qu'on soit un jour avec et un jour sans. Mais Dieu, il est l'Emmanuel pour toujours avec nous. Et il nous appelle à l'être pour toujours avec lui. Chaque jour qu'il nous donne de nous lever et de respirer par ce miracle de la vie. Alors, la persévérance. J'aimerais maintenant vous lire plusieurs paroles sur la persévérance parce que c'est ce dont on a besoin pour demeurer pour toujours avec lui dans cette vie nouvelle. C'est la persévérance. Alors, je vais les dire rapidement, vous pouvez les noter pour ceux qui veulent. D'abord, Daniel 6, verset 16 et suivant. On ne va pas lire ce texte, mais c'est quand le roi, parce que Daniel a été fidèle dans l'adversité, dans la difficulté, le roi a été contraint, devant respecter sa parole, de le mettre dans la fosse aux lions. Et voyez comme le roi appelle Daniel. Si on pouvait avoir la marque de ce cœur de Daniel, si on pouvait avoir la marque, ô combien ce nom est cher à mon cœur. Daniel, Dieu est mon juge, c'est quelqu'un de vrai, c'est quelqu'un qui persévère, c'est quelqu'un qui respirait le fait de garder les commandements de Dieu, qui donnait un grand témoignage de ce qu'est la fidélité. Ainsi, le roi, voyez comme il l'appelait. Alors le roi donna l'ordre qu'on amène Daniel et qu'on le jette dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Puisse ton Dieu, que tu sers avec persévérance, te délivrer. » C'est pas beau. Et on voit après au verset 20, « En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste, parce que le roi l'aimait, un roi païen. Il aimait Daniel parce qu'il voyait que c'était un vrai. » qui demeurait en Dieu. D'une voix triste, le roi prit la parole et dit à Daniel, « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu, que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions ?» Ce n'est pas beau, frères et sœurs, que ça touche vos cœurs, qu'on veuille être des Daniels. Et si tu es un Daniel, mon frère, ma sœur, le Dieu vivant que tu serviras avec persévérance te délivrera de la fosse au lion, comme il l'a fait pour Daniel. Dans la pire adversité, il éteindra les flèches de l'ennemi et il te libérera, car tu es fait pour sa gloire. Luc 8, verset 15. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit, comment ? Avec persévérance. On porte du fruit avec persévérance. Luc 21, 19. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Romains 2, verset 7. Il réserve la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Oh, j'aimerais vous les répéter trois fois chacune, mais on est quand même limité par le temps. Alors vous pourrez les reprendre pour vous-même. Romains 15, verset 5. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ. Ephésiens 6, verset 18. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications, en tout temps, par l'Esprit, veillez à cela avec une entière persévérance. Avec une entière persévérance, veillez à cela. Et c'est quoi ? De faire en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. 2 Thessaloniciens 1, 4. Paul qui écrit à cette église de Thessalonique leur dit « Aussi, nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu. Pourquoi ?» Pourquoi ? Il se glorifie d'eux, c'est-à-dire qu'il parle en bien de cette église de Thessalonique à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des afflictions que vous avez à supporter. On se glorifie de vous à cause de votre persévérance et de votre foi dans la difficulté. Hébreux 6, verset 12. En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Qu'on puisse les imiter. Ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Et la promesse de Dieu, c'est non seulement la vie éternelle, dans sa gloire, dans cette Jérusalem céleste, mais c'est déjà le royaume des cieux au milieu de nous. C'est déjà une vie nouvelle, pleine et glorieuse. Dans la deuxième lettre aux Corinthiens, Paul parle que la gloire du Sinaï n'en était pas une, vous rendez-vous compte ? Que Moïse, qui devait cacher son visage qui resplendissait de la gloire, serait censé vivre une gloire moins grande que celle qu'on est appelé à vivre. Mais voyez-vous, parce qu'on demeure sur le palier, dans nos questionnements, dans notre chair, et qu'on ne vit pas l'Évangile dans sa plénitude, on bafoue l'Évangile de Christ, et le monde se moque même de l'Église. Les nations se moquent. Et disent, mais où est-il leur Dieu ? Hébreux 10, verset 36. Car vous avez besoin de persévérance. Vous avez, et ça on doit le sentir, frères et sœurs. Mais si tu obéis et que tu le vis, le Seigneur, il va te la donner. Il va te la donner. Il est l'Emmanuel. Vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Hébreux 12, verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons comment ? Avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte et persévérons pour ne jamais retomber. Une carrière, elle est ouverte et on ira au bout. On ira au bout. On n'est pas Johnny Hallyday qui ne peut plus monter sur scène. La carrière en Jésus-Christ, elle est éternelle et elle est à la gloire de Dieu. Apocalypse, chapitre 1, verset 9, dernière parole. Moi, Jean, votre frère, qui ai part avec vous à la tribulation, au royaume et à la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Vous voyez, si on pouvait être vraiment les frères de Jean, frères et sœurs, en ayant part à la tribulation, au royaume et à la persévérance en Jésus. Romains, chapitre 5, versets 1 à 4, nous dit ceci, je sais que je l'ai dit et je répète cette parole parce qu'elle doit être plantée dans nos cœurs. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi, accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Et s'il dit dans laquelle nous demeurons fermes, ça veut bien dire que si on ne demeure pas ferme, on peut sortir de cette carrière, on peut tomber dans laquelle nous demeurons fermes. On a eu accès à cette grâce par la foi et on demeure ferme. Et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. On se glorifie dans l'espérance de cette gloire éternelle qui vient bientôt. Mais bien plus, verset 3. Nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. On se glorifie de la gloire de Dieu. Qui c'est qui peut se lever et qui peut dire ça cet après-midi ? Qui c'est qui peut dire « Je me glorifie des afflictions parce que je comprends, j'ai compris dans ma vie que l'affliction produit en moi la persévérance ». On a besoin des afflictions, on a besoin de difficultés pour que soit produite cette persévérance qui va augmenter le quota de gloire, augmenter le quota de joie, augmenter le quota de l'onction de Dieu dans nos vies, ainsi de son service, des fruits que l'on va porter. Sachant que l'affliction produit la persévérance la victoire dans l'épreuve. Vous voyez, la persévérance, pas ceci ou cela. Celui qui persévère, il a la victoire. Il ne tombe pas. Il n'est pas tiède ou à moitié victorieux. Si tu persévères, les manuels te donnent la victoire. Et chut, faites silence devant l'Éternel. C'est la vérité. Celui qui a la vraie persévérance du cœur, il verra la victoire. La victoire dans l'épreuve. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance. Et il finit par dire, « Or, l'espérance ne trompe point. » Et souvent, on lit que ce verset, vous voyez. Mais il vaut mieux lire cela. Quand bien même on ne lirait pas la suite, « L'espérance ne déçoit point parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs. » Si on vit ces versets, le verset 5 que je n'ai pas lu, que je viens de dire rapidement, le verset 5, oui, on le vivra automatiquement. Automatiquement. Mais si on attend un Esprit Saint, chaleureux, doux, qui nous réconforte, je ne sais pas quel esprit on va recevoir. Mais parfois, je doute beaucoup que ce soit l'Esprit de Dieu. Ou ça peut être l'Esprit de Dieu, mais on a le Dieu qui parle au travers de Jacques. Que cet Esprit qu'il a mis en nous, il le chérit avec jalousie et qu'on est des adultères. Parce qu'on a l'amour du monde et pas l'amour de Dieu. Et Jésus a bien dit, je ne te prie pas pour le monde, mais pour eux. Le monde les a haïs, ces gens-là, parce qu'ils demeurent fermes, parce qu'ils sont sanctifiés par ta vérité. Parce qu'ils passent dans la dimension que le monde est, que le monde ne peut pas recevoir. Ils héritent des véritables promesses. Et rendons témoignage à ce monde que c'est là la vie et l'immortalité. C'est là le seul bonheur, la seule joie, la seule vérité, la seule vie digne d'être vécue. Alors celui qui persévère au sein de l'affliction, il aura la victoire dans l'épreuve. Et la victoire, elle va donner une conviction indélébile de l'espérance. Et cette espérance, effectivement, elle ne déçoit point, parce que celui qui persévère, eh bien, il est rempli du Saint-Esprit. Il est rempli du Saint-Esprit. Et tous les camions bulldozers de la terre pourraient lui passer dessus. Les armées pourraient se lever avec tous leurs tanks, leurs hélicoptères, comme David. Qu'une armée vienne à camper contre moi, j'ai là ma confiance. Il n'y a rien ni personne qui pourra faire tomber un homme pareil. Il sait qu'il est en Dieu et avec Dieu pour toujours. Alors, il faut être vrai, frères et sœurs. Ce n'est pas facile. Il y a du combat. Il y a un combat. Et j'aimerais vous dire, et que vous puissiez le retenir dans vos cœurs, que s'il y a combat, c'est qu'il y a enjeu. S'il y a du combat, c'est qu'il y a un enjeu. Une personne qui a un rôle à jouer dans le corps de Christ, elle va avoir du combat. Parce que le diable, on va le lire, il rôde comme un lion rugissant. Pourquoi ? Parce qu'il sait que si cette personne, elle rentre, elle ne va rien pouvoir faire d'autre sans même le vouloir. Parce que c'est Jésus qui va porter son fruit en elle que de ramener des gens au Dieu de Jacob, de ramener les cœurs à l'Éternel. De ramener au fait de bouillir. Le malin sait que toute personne qui vit la plénitude du Seigneur, elle va faire des dégâts. Et il sait que ses jours sont comptés. Et tout ce qu'il veut, c'est qu'on ne soit pas dans cet Apocalypse 21 comme on l'a lu. Tout ce qu'il veut, c'est que la prière de Jésus de Jean 17, elle ne soit pas exaucée. Il est en haine, il a la hargne pour nous arracher à Dieu. Et ça devrait nous aider, que quand on a des combats, de se dire « c'est pas pour rien que j'ai ces combats ». Et ça doit nous aider à redoubler d'entrain, de zèle, pour aller au-devant de Dieu, avec joie obéir, et laisser sa manne venir nourrir nos cœurs et fortifier nos vies. Ça doit nous aider à comprendre qu'on est enrôlé dans une armée. On est enrôlé dans un combat universel, frères et sœurs, où on a un rôle à jouer. Et si tu ne joues pas ton rôle, toi-même, tu vas avoir une blessure de cœur, tu vas être dans la mélasse et tu vas blesser le cœur de Dieu. Alors guéris ton cœur, guéris celui de Dieu. Fais avancer son royaume et son règne. Tu as du prix à ses yeux et tu as un rôle. Et ce n'est pas une parole de pommade pour faire du bien à notre ego. C'est une parole de vérité qui est même grave parce que l'heure est avancée. L'heure est grave et plus on avance, plus le combat se déchaîne et plus il est important et essentiel qu'on se lève avec sérieux et plénitude pour rentrer dans la volonté de Dieu. J'aimerais vous dire que celui qui ne lâche pas, Dieu ne le lâchera jamais. Celui qui ne lâche pas, il peut être certain que Dieu ne le lâchera jamais, mais que chaque jour, Dieu pourvoira, parce qu'il est le Tout-Puissant et il est aussi le tout à fait fidèle. Prenez avec moi 1 Pierre, chapitre 5. Ces paroles aussi sont connues, mais il est très bon de les rappeler. Première lettre de Pierre, chapitre 5, on va lire les versets 8 à 11. Soyez sobres, veillez. On doit être sobre, on doit veiller parce qu'on est dans une guerre. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Ce serait une prédication en soi de prêcher sur la puissance de Satan. De méditer sur ce que c'est un lion qui rôde et qui cherche qui dévorer. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. On n'est pas seul, on a tous le même programme. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin, comme on l'a dit, de cette affliction. Eh bien, cet Emmanuel vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Et c'est vrai ça, frères et sœurs. C'est vrai. Je ne veux pas prétendre avoir la présomption de me dire inébranlable. Mais je vois dans ma vie que ce processus, il est vrai. Celui qui résiste avec une foi ferme, qui veut rien savoir sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié, qui veut faire de ce monde un monde crucifié pour lui et de lui-même un homme crucifié pour ce monde, qui veut crucifier sa chair avec ses passions et ses convoitises pour appartenir à Jésus-Christ et qui persévère en gardant sa parole, en résistant au diable de manière ferme sans le lâcher, non seulement Dieu ne le lâchera pas, mais Dieu le perfectionnera lui-même. Dieu l'affermira, le fortifiera et mettra en lui une demeure inébranlable. Inébranlable. Dieu est inébranlable. J'en reviens tout le temps, sans faire exprès, à cette épître de Jacques. Écoutez ce que dit Jacques, Jacques 1, verset 16. « Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et doux don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. » Vous voyez, il n'y a pas une variation. Le Seigneur, il est tout-puissant. Il est inébranlable. Et si tu t'accroches, non seulement il va s'accrocher à toi, mais il va accomplir cette œuvre. Et il va réellement te rendre inébranlable. Et ainsi, inébranlable, tu pourras aider les autres à devenir inébranlables. Tu vas être, sans même le vouloir, être utilisé jour après jour. Mais ceux qui voudraient servir le Seigneur par leurs propres aspirations, j'ai envie de dire, on ne sert pas le Seigneur. Le Seigneur se sert de nous, vous comprenez? Quelle prétention de vouloir servir le Seigneur. On a tellement de désirs de vouloir faire ceci, cela. Le désir pur qu'on devrait avoir, c'est de s'attacher à Dieu, de demeurer ferme dans la foi et de tenir au sein des afflictions. Ainsi, Dieu va faire son œuvre en nous et va se servir de nous beaucoup plus que tout ce qu'on aurait voulu faire. Mais selon lui et non pas selon nous. C'est pourquoi l'apôtre Pierre finit par dire de tout son cœur, à lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Je suis d'accord. C'est du solide. C'est du solide. Et voyez, il dit même, on peut vite lire le verset 12, « C'est par Sylvain qui est à mes yeux un frère fidèle. » Vous voyez, Sylvain, il peut dire, « C'est un frère fidèle que je vous écris ce peu de mots pour vous exhorter et pour vous attester que la grâce de Dieu à laquelle vous êtes attachés est la véritable. » C'est la véritable. C'est la véritable. Vous voyez, bien-aimés, si Jésus, il nous exhorte à mettre la main à la charrue sans regarder en arrière, si la Torah nous exhorte à regarder ni à gauche ni à droite, s'il nous dit que le Fils de l'homme n'a pas où reposer la tête, c'est pas simplement pour être dépouillé, c'est pour demeurer dans son amour. C'est pour demeurer dans cette vie. C'est pour être sûr qu'on ne tombe pas parce qu'il sait de quoi on est fait. Alors quand nos yeux peuvent être tentés dans ce monde inique dans lequel on vit, quand notre cœur peut être tenté au découragement, à la colère, à toutes les formes de péché que l'on peut imaginer, j'ai envie de vous dire, on pourrait tomber, on pourrait regarder, mais on va tout de suite faire un saut en arrière. Dieu restera fidèle. Et on doit avoir cette force, si on a compris, et qu'on n'est pas bête, tout simplement, qu'on n'est pas stupide, mais qu'on veut croître dans le Seigneur. On doit couper notre main, on doit arracher nos yeux, on doit dire non. On doit avoir un non qui est un non, et on doit avoir un oui qui est un oui. On doit vouloir servir qu'un seul maître tous les jours de notre vie et pas perdre du temps à gauche et à droite parce que plus tu demeures en lui, plus il demeure en toi. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Plus tu vas à gauche, plus tu vas devoir perdre du temps pour te rediriger vers la droite et repartir devant. Demeure, reste fidèle, tiens bon, garde ses commandements. Prouve-lui que tu l'aimes et il va te prouver ô combien il t'aime. Si tu marches avec lui, il pourra faire rien d'autre, c'est tout ce qu'il y a dans son cœur, de marcher avec toi. Ne t'arrête pas, ne t'arrête pas, marche, avance. Femme de Lot, elle est restée dans cette terre salée, une statue de sel, dans cette plaine sans habitants. Marche, marche. C'est avec tout ton cœur et une juste compréhension des choses que tu vas crucifier ta chair. Abattre toute pensée et l'amener à l'obéissance de Christ. Oh, soyons fidèles, frères et sœurs. De grâce, c'est le cœur de Dieu qui mendie notre fidélité presque, parce qu'il est avec nous. Laissons Dieu être avec nous. Laissons-le être avec nous, faire son œuvre et nous faire aller de progrès en progrès. J'aimerais maintenant que prenez avec moi, si vous le voulez bien, Matthieu, chapitre 25, et pour nous aider à rappeler tout ce que j'ai partagé, j'aimerais qu'on prenne l'exemple de l'homme au seul talent, ou dans d'autres évangiles, d'autres paraboles, c'est l'homme à la seule mine, qui garde au fond de lui une peur, qui garde au fond de lui une fausse image de Dieu, et qui, comme beaucoup de chrétiens, le sépare de la merveilleuse grâce de la sanctification, qui, je le répète, est une passion d'amour. Et ainsi, il est empêché de porter du fruit, de croître, de fructifier, d'avoir la vie en abondance que le Père souhaite si chèrement pour tous ses enfants. Alors, on va prendre Matthieu 25, verset 14. Vous pouvez lire aussi les mines dans Luc, chapitre 19. Et on va méditer sur l'attitude des deux premiers et sur l'attitude du troisième. Et c'est cette différence d'attitude qui fait tout. Et elle fait tout. Alors Matthieu 25, verset 14. « Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième. » À chacun selon sa capacité, et il partit. C'est, peu importe, il donne à chacun selon sa capacité, et il part. Alors écoutez, le verset 16, aussitôt, on peut passer sur ces passages sans voir toute la puissance qu'ils ont. souligné aussitôt. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et il gagna 5 autres talents. Vous voyez, à peine il est parti, aussitôt il part. Il s'en va et il les fait fructifier. Il a une attitude de cœur. Il est rempli de passion. Il est rempli d'amour. C'est pareil pour l'autre quand bien même il a reçu moins de talents. De même, verset 17, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla, voyez l'autre, aussitôt il s'en alla et lui, il alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. On enterre le salut de Dieu au lieu de nous en aller aussitôt dans la joie. Alors, longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha. Pourquoi c'est lui le premier ? Parce que moi, je vois ce qu'il a dans son cœur. Ça a été le premier à partir, ça a été le premier à s'approcher. Il aimait le Père. Il n'avait pas peur de lui. Il avait même envie de lui dire, pas pour ma gloire, mais pour toi, parce que je t'aime et je veux qu'il y ait le plus de fruits, le plus de personnes qui t'aiment. Donne-moi même encore 5-6 talents. Et c'est pour ça qu'il les donne à lui. C'est le premier à aller les faire valoir. C'est le premier à s'approcher du Père quand il revient. Méditons sur cette attitude de cœur. Il s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. » Et vous voyez, moi je sens toute la joie de son cœur. Il va vers son Père, il dit, « Regarde, voilà, voilà Père, voilà mon Abba. Tu m'as donné ça, voilà, je te les redonne. » Oh, il veut rien pour lui, il veut tout pour Dieu. Il l'aime et il est tout heureux, il est content. Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle, serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. » Et vous savez, c'est ce que Dieu va faire. On ne croit pas en une spiritualité, on croit dans le Dieu de l'histoire. Le Dieu de l'Emmanuel, c'est le Dieu de l'histoire, qui mène la politique des hommes vers un but, et ce but, c'est son règne. C'est la réelle révélation du Notre Père, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est la royauté davidique accomplie de la terre d'Israël jusqu'aux extrémités de la terre. On va vers un règne millénaire terrestre, un règne messianique. Et ceux qui, dans ce pèlerinage terrestre, auront été fidèles en peu de choses, et si vous devez garder une chose, persévérez, gardez sa parole. Dieu les établira sur des beaucoup plus grandes choses. Nous régnerons avec lui. Nous jugerons avec lui. Nous serons partie intégrante de la royauté dont Jésus sera notre roi adoré, bien-aimé. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite, vous voyez. Il traîne les pieds. Et il s'approche et il dit, « Seigneur, voyez la fausse conception de Dieu qu'il a. Je savais que tu es un homme dur. Non, tu ne savais pas. Tu aurais dû savoir que je suis l'Emmanuel et avoir la joie parfaite que tes 2 camarades ont eue. Qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. Et Dieu, par la suite, va le prendre au mot, vous voyez. Ah, si c'est ça que tu crois que je suis, eh bien, la vie éternelle n'est pas pour toi. Mais ta place est dans les temps de feu. On ne va pas lire la suite, mais c'est ça qui lui arrive. Vous pourrez la lire vous-même. Il dit, j'ai eu peur, vous voyez. Quand on n'est pas dans cette plénitude, on est dans la peur. Parce qu'on n'a pas l'amour. Et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Il ne dirait pas comme les autres, voilà, je te donne. Prends ce qui est à toi. On voit vraiment cette séparation. Ça, c'est à toi, moi j'ai fait mon travail. Il n'y a pas de communion. Il y a une attitude profondément différente. Et vous voyez, peut-être rapidement quand même lire la suite. Verset 28, voyez ce que Dieu lui dit, c'est terrible. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Celui qui a Jésus dans son cœur, on va lui donner, et il aura l'abondance. Mais celui qui n'a pas, on lui ôtera même ce qu'on aura pu lui confier. On lui ôtera même ce qu'on aura pu lui confier. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Dans les ténèbres du dehors, hors de la maison, lui l'Emmanuel qui voulait pourtant qu'il y soit. Vous voyez ce qu'il lui dit, j'aimerais encore relever ça. Il lui dit serviteur méchant et paresseux. Serviteur méchant et paresseux. Le Seigneur va le traiter de paresseux. Et vous avez vu quelle est sa fin. Et j'aimerais rebondir sur ce terme de paresseux. Dans le livre des Proverbes nous parle beaucoup de la paresse. Et un jour, j'avais pu prêcher là-dessus. Proverbe 19, 24. Le paresseux plonge sa main dans le plat et il ne la ramène pas à sa bouche. Le paresseux, il plonge la main dans le plat, mais il ne la ramène pas à sa bouche. Et le paresseux, on va le voir pour terminer, c'est celui qui n'a pas goûté au combien le Seigneur est bon. Il plonge la main dans le plat, il peut même faire plein de choses, parfois même il peut croire tout donner, mais il n'a pas à la base reçu cette grâce de goûter ô combien le Seigneur est bon. Il ne croit pas, il ne sait pas, parce qu'il n'a pas fait le pas, que la vie de l'Esprit, il n'y a rien de plus merveilleux. L'humilité, il n'y a rien qui peut nous rendre aussi libres. Le feu, c'est la vie, c'est le bonheur. Il ne sait pas ça, parce qu'il n'a pas fait le pas, et il est toujours en train d'attendre. Alors il peut faire plein de choses, mais il n'amène pas la main à la bouche. Il ne croque pas dans le fruit. Il ne connaît pas la saveur du fruit, voyez-vous. Il ne connaît pas ô combien ce fruit est bon, ô combien il est juteux, ô combien il est fait pour ça, parce qu'il ne fait pas le pas. Alors il va, aussi fou que cela puisse paraître, ne pas mettre la main à la bouche. Et si ça peut paraître fou, je me demande s'il n'y a pas plus de chrétiens qui font bien des choses, mais qui ne croquent pas le salut de Dieu, qui ne jouissent pas de cette glorieuse liberté des enfants de Dieu. Il y a peu de chrétiens, je crois, qui prennent dans le plat et qui ramènent à leur bouche. Il y a des chrétiens qui vont ramasser toute la journée des fruits dans les vergers. Ils entendent plein de prédications, ils veulent essayer de faire plein de choses. Quand ils rentrent chez eux, ils lavent les fruits une fois qu'ils sont même épuisés. On s'épuise à faire par nous-mêmes. Ils mettent la table, ils les posent sur une assiette, ils prient, ils rendent grâce. Ils plongent alors leurs mains dans le plat, mais ils ne croquent pas le fruit. Et ils ne jouissent pas de la saveur du fruit. Le sucre, le jus, la fraîcheur, la bonté du fruit, elle ne coule pas en eux. Parce que c'est des gens irrésolus qui ne reçoivent pas du Seigneur et qui ne rentrent pas dans la dimension de Dieu. Et ô combien c'est terrible, ô combien c'est terrible. C'est des gens qui ne se jettent pas, qui ne font pas le pas de tout donner, de passer dans la nouvelle dimension de la foi, de la prière, de la fidélité, de la constance, de l'ardeur du cœur qui va tout changer. Et comme on l'a dit, c'est pour ça qu'on est fait. Est-ce que ce n'est pas le cas de beaucoup de chrétiens? Est-ce que vous voyez des gens, chaque fois que vous rencontrez un chrétien, qui porte la demeure de Dieu en eux? Est-ce qu'il n'y a pas trop de chrétiens qui n'ont pas la joie? Il n'y a qu'à aller dans les librairies chrétiennes pour voir que c'est la vérité. On n'a que des choses parce que les couples vont mal. On a maintenant de la psychologie chrétienne. On fait conférence sur conférence de guérison intérieure, de guérison physique. Et par contre, l'évangile de la gloire de Dieu, il n'est plus prêché. On n'a plus la demeure de Dieu dans les cœurs. Il y a tout pour l'homme, pour l'homme, pour l'homme. C'est la preuve que l'homme n'a pas croqué le fruit. On va prendre On arrive bientôt à la fin d'une parole de Pierre au chapitre 2 et on va lire les versets 1 à 3 dans sa première lettre. Rejetant donc toute méchanceté et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez, je souligne, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Celui qui n'a pas goûté que le Seigneur est bon, et qu'il soit clair, tu goûteras que le Seigneur est bon quand tu vivras vraiment pour le Seigneur. La vraie bonté de Dieu, tu la connaîtras, tu la vivras, sa vraie joie, quand tu auras réellement tout donné, quand tu marcheras en vérité comme j'ai cessé de le dire, quand tu vivras par l'Esprit, alors tu t'affectionneras aux choses de l'Esprit. Tu verras en combien c'est bon, alors tu désireras de tout ton cœur le Seigneur lui-même, les choses de Dieu. Tu n'auras plus besoin de te forcer à plus être attiré par le monde, parce que le monde ne t'attirera plus. Comme le dit Colossiens 3, versets 1 à 3, tu seras plus attaché aux choses de la terre, mais attaché aux choses d'en haut. Aux seules choses d'en haut, et alors tu paraîtras plein de gloire quand le Seigneur reviendra. Tu ne seras pas attaché au monde qui passe, tu seras attaché au monde qui vient. Et ça, c'est seulement quand on est passé qu'on sait de quoi on parle. Tu peux désirer, comme il le dit, pour croître pour le salut, de gloire en gloire, si du moins tu as goûté combien le Seigneur est bon. Parce que si tu n'as pas goûté, si tu n'es pas passé par cette folie de la croix, si tu n'as pas cessé de réfléchir et que tu n'es pas rentré comme ton père Abraham dans cette dimension de la foi, dans la puissance de la mort et de la résurrection de Jésus, tu ne peux pas désirer. Tu ne peux pas avoir cet élan de cœur, cet élan d'amour comme un feu, comme une joie pour la sanctification. Et tu ne peux même pas, que tu sois missionnaire ou pas, servir le Seigneur avec joie. Tu ne peux même pas vivre tout simplement avec joie. On pourrait commencer par dire, est-ce que tu es heureux? Est-ce que tu es heureux de servir le Seigneur ensuite? Si on ne vit pas à fond pour Dieu, comme le disait un homme de réveil, soit t'es feu, soit t'es mort. T'as pas la joie de vivre, tout simplement. T'as pas la joie d'être missionnaire. Par contre, si t'as goûté au combien le Seigneur est bon, t'as la joie de vivre et t'as la joie, le privilège. Tu diras comme Paul, j'ai reçu grâce et apostolat d'amener les païens à l'obéissance de la foi. Tu vois comme tu es un privilégié et tu ne cesseras de bénir le Seigneur. Sinon, on est des éternelles victimes dans tout ce qu'on vit. Regardez dans le monde, les gens font que se plaindre. Font que se plaindre. On sera une éternelle victime, on sera des éternels insatisfaits. C'est ce que disait ce frère Thomas à Jésus dans ce même repas du Céder. Montre-nous le Père et cela nous suffit. Oh, j'espère que le Père vous ait montré pour que cela soit tout suffisant. Tout suffisant. Alors tout le reste deviendra comme vanité, frères et sœurs. Il faut sauter dans la marmite en cessant de se dire qu'elle est trop chaude, que c'est impossible, frères et sœurs. Celui qui saute, vous savez pourquoi il saute? Parce qu'il est convaincu, il devient convaincu que Dieu est avec lui, que Dieu est l'Emmanuel, plein de feu, plein d'amour, plein de provisions de chaque jour. Alors lui, il va goûter au combien cette vie est bonne, au combien le Seigneur est bon, et dans cette sphère nouvelle, parce que c'est vraiment un autre monde. Quand tu es en feu pour Dieu et que tu rentres vraiment dans ses œuvres, tu vois tout différemment. Tu vis dans un autre monde. Tu vois le royaume de Dieu. Et la paresse qui pouvait t'empêcher de ramener la main à ta bouche, elle va être consumée. On n'en parlera même plus. On n'y pensera même plus. Parce qu'on sera passé à autre chose. L'orgueil, il n'aura plus de place dans ta vie. Et la compréhension du bonheur d'être humble, elle va libérer ton cœur. Cet homme, il va rentrer dans la joie de son maître dès ici-bas. Alors, tous ne comprendront pas peut-être. Le monde ne va pas le comprendre, mais il vivra ce salut. Et comme Paul, il pourra dire, dans toutes circonstances, 2 Corinthiens 6, versets 9 et 10, « Nous sommes regardés comme imposteurs, quoique véridiques, comme inconnus, quoique bien connus, comme mourants, et voici nous vivons, comme châtiés, quoique non mis à mort, comme attristés, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous en enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. » On possède toutes choses. On a beau avoir rien du tout, qu'on soit dans l'abondance ou dans la disette, on possède toutes choses. Parce que Jésus est le principe même de la création. Et il est vraiment vivant et non pas sous terre, dans nos cœurs. Il dira aussi avec Paul, comme cette parole que je vous ai citée, 1 Thessaloniciens 5, versets 16 à 19, « Soyez toujours joyeux !» Il sera porteur de cette bonne nouvelle, de cette exhortation. « Soyez toujours joyeux !» Il dira « Priez sans cesse !» Parce que lui-même priera sans cesse, avec persévérance. En toutes circonstances, rendez grâce, car telle est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit. Cet homme nouveau, convaincu que Dieu est l'Emmanuel, il aura goûté et il pourra dire, il pourra rendre témoignage par sa vie qui fera envie. Ô combien cette vie de Dieu est la seule vie. Ô combien elle est bonne. Ô combien elle est vraie. Et qu'il voudra rien d'autre. Et il exhortera les autres à ne vivre rien d'autre que la plénitude du Saint-Esprit. Il passera plus de pommade, parce qu'il saura que les gens passent à côté de la plénitude. La plénitude du Saint-Esprit, c'est ce qu'on doit prêcher, frères et sœurs. La plénitude de la vie de Jésus. J'aimerais qu'on prêche rien d'autre ici, et partout où le Seigneur nous appelle, que la plénitude de la vie en Jésus, quand bien même, malheureusement, ça devient du chinois pour certains. Pierre, en disant « Désirez, désirez, si du moins vous avez goûté combien le Seigneur est bon », il cite le psaume de David. David, qui lorsqu'il était, et j'aimerais, c'est mon dernier point, terminer par ça, parler que cette joie, cette demeure de Dieu, qui est l'Emmanuel avec nous, il l'est en toutes circonstances. On n'a pas d'excuse parce qu'il est Dieu, parce qu'il est Dieu. Au contraire, on a une nuée, une ribambelle de témoins. Lisez Hébreux chapitre 11, de témoins de la foi. Ce psaume qu'on va lire, le psaume 34, il est écrit par David lorsqu'il est persécuté par Saül. Il est dans la détresse. C'est dans la détresse qu'il a composé ce psaume pour nous dire ô combien, pour celui qui reçoit la vérité que Dieu est avec lui et saute dans cette vie nouvelle, que quelles que soient les circonstances, rien ne peut le séparer de cet amour. Il est affranchi, il a été rendu libre, il y a un feu, une louange inépuisable qui est en lui. On est fait pour la louange inépuisable, frères et sœurs. Lisons ensemble psaume 34, verset 2. On va lire les versets 2 à 9. Je bénirai l'Éternel, comment ? En tout temps. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Il est persécuté par Saül, obligé de fuir. Il a quitté l'ami pour lequel il avait un amour incroyable, Jonathan. Et il part. Il est obligé de faire l'insensé, à baver pour ne pas se faire attraper, lui qui a été oint roi d'Israël. Mais il dit de tout son cœur, je bénirai l'Éternel en tout temps, en toutes circonstances. Sa louange, elle sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, je rajoute qui le craignent, en vérité. Et il les arrache au danger, comme on l'a vu pour Daniel. Rappelez-vous, frères et sœurs, qui composent ce psaume dans la détresse, dans la fuite. Et il dit, sentez et voyez combien l'Éternel est bon. C'est ce verset que cite Pierre. Désirez le lait pour croître pour le salut, si du moins vous avez senti et vu combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui, en Dieu, son refuge. Père céleste, qu'il en soit ainsi dans chacune de nos vies. Plante toutes ces choses dans nos cœurs et donne-nous de marcher dans la plénitude de ta vie, de ton salut. Amen.